Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Sinon, vous avez reçu une feuille à la porte avec presque tous les versets qui sont écrits là-dessus. Et nous allons dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc, découvrir les clés de la prospérité. Et on a vu des belles choses déjà. On a vu des choses super importantes la semaine passée et la semaine avant. Donc, je vous encourage à aller sur le site web www.lavicomblée.org et vous pouvez écouter les messages, c'est gratuit. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine passée ou avant, vous pouvez rattraper des choses. La première semaine, on a parlé vraiment de l'importance d'avoir les bonnes attitudes pour être prospère, d'avoir la bonne façon de penser, de vraiment s'éloigner de cette mentalité de pauvreté. Si vous pensez que vous êtes pauvre, que Dieu veut que vous soyez pauvre, vous allez être pauvre et rester pauvre. Mais tel qu'on en pense dans son cœur, tel il est. Amen. Et on a vu que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. C'est pourquoi on a besoin d'abandonner notre façon de penser que nous avons appris juste à travers nos éducateurs terrestres. Et on a besoin d'être rééduqués d'une façon céleste. Amen. On a parlé de ça la semaine passée. On a parlé de l'importance d'avoir les bonnes priorités, de toujours mettre Dieu en premier. Notre texte clé, c'était chercher d'abord, premièrement, en premier lieu, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Et on a parlé du système que Dieu a établi pour garder notre cœur de l'amour de l'argent, pour faire sûr et certain qu'on reconnaît toujours et en tout temps que Dieu est la source de notre vie, etc., etc. Donc, on a vu cela la semaine passée et on a vu des belles choses. Et je crois qu'en mettant ces choses en pratique, je sais que nous allons commencer à prospérer comme Dieu veut qu'on prospère. Amen. Donc, notre texte clé pour la série, c'est 3 Jean 1, 2. Et voici qu'est-ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Jean, et c'est une bonne parole, c'est un mot d'encouragement. Si jamais tu as eu l'idée que Dieu veut que tu sois dans la misère, que Dieu veut que tu sois dans la disette, que Dieu veut que tu souffres et que les choses aillent mal et que plus tu es malade et plus tu es pauvre, plus tu vas être humble et pieux, laisse-moi vous dire que 3 Jean 1, 2, ça va effacer, ça devrait effacer une fois pour toutes cette pensée. Et voici qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à travers l'apôtre Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et si Dieu veut que je prospère, qui suis-je de ne pas vouloir prospérer? Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, comment? À tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, encore, enlevez vos lunettes religieuses. Si la tradition religieuse vous a donné l'idée que Jésus était pauvre, tous ses disciples étaient pauvres, et qu'ils étaient toujours dans la misère, et c'était toujours difficile, et qu'ils n'étaient jamais capables de faire quoi que ce soit pour aider les autres, enlevons ces lunettes religieuses et regardons comme il faut, la parole de Dieu qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Donc, il y a un autre verset qu'on a vu. C'est pas dans vos notes cette semaine, mais je l'ai remis sur le PowerPoint. Et voici un peu, on pourrait dire, la définition biblique de la prospérité selon Dieu. Et voici qu'est-ce qu'il dit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Qui a des besoins? Moi, j'ai des besoins. Moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'acheter de la nourriture, j'ai besoin de mettre de gaz dans l'auto, j'ai besoin de payer pour le toit au-dessus de ma tête. J'ai des besoins. J'ai 5 enfants à la maison, un chien et 3 oiseaux. Et ça mange chez nous. Et laisse-moi vous dire, j'ai des besoins. Mais voici la bonne nouvelle, qu'il est capable de faire en sorte que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, on dit en abondance, pour toute bonne œuvre. Wow! Vous voyez, ça c'est la définition vraiment de quand Dieu dit qu'il veut qu'on soit prospère, que rien soit brisé, que rien manque dans notre vie, il veut que nous ayons toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins, comme on dit besoins, avec un superflu, avec abondance, pour participer à toute bonne œuvre. Amen. Prochain verset qu'on a vu, et on va le relire encore. Et c'est Dieu ici qui va faire ceci. Il ou Dieu vous rendra suffisamment riche. Et là encore, on a de la difficulté à lire un mot comme ça à l'Église, n'est-ce pas? Mais parce qu'on a une définition de c'est quoi d'être riche. Être riche, la plupart des personnes, c'est d'avoir des Rolex, c'est d'avoir vraiment une attitude orgueilleuse et d'avoir beaucoup de biens matériels et d'être centré sur soi-même et d'abuser de son pouvoir. Et, n'est-ce pas ça l'image que nous avons des riches d'habitude, n'est-ce pas? Hein, et c'est le gros luxe, c'est le gros égoïsme, c'est le gros moi, je, et on marche sur tous les autres afin d'avoir plus. Mais si c'est ça que vous croyez, la richesse, ça c'est pas bon. Mais Dieu dit ici que Dieu vous rendra suffisamment riche. Dieu va pas faire de vous un de ces tyrans comme ça, qui va écraser son entourage. Non, il va vous rendre suffisamment riche en tout temps, pour que vous puissiez sans cesse vous montrer quoi? Généreux. Wow! Ça, c'est la définition ou vraiment l'image de quelqu'un qui est riche en Dieu. Premièrement, il est riche spirituellement. Il sait qu'il est en Jésus-Christ. Il est riche mentalement. Il a la bonne façon de penser, les bonnes attitudes. Mais même là, on voit, parce que le contexte de ce verset, 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9 encore, lisez-le à la maison, le contexte, c'est le contexte de Paul qui demande aux chrétiens de mettre de côté de l'argent pour qu'ils puissent donner une offrande aux pauvres à Jérusalem parce qu'il y avait une famine. Et il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est ça le contexte. Donc, on ne parle pas juste des richesses spirituelles, on parle des richesses naturelles aussi. Est-ce que vous êtes là? Donc, savez-vous que Dieu veut que vous soyez riches? Hein? Je sais que ça va prendre un peu de temps pour que ça rentre. Je vais le dire encore, Dieu veut que vous soyez riches. Je suis juste en train de lire la Bible, vous êtes d'accord, oui? Est-ce que j'ai dit que Dieu veut que vous soyez un millionnaire? Non. Est-ce que j'ai dit que Dieu veut que vous ayez plus d'argent que Donald Trump ou Bill Gates? Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que tout le monde ici doit rouler en BMW ou Mercedes? Non, j'ai pas dit ça. Mais Dieu peut faire en sorte que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, hein? Mais vous aurez aussi un superflu pour aider les autres et pour sans cesse vous montrer généreux. Et c'est ça que j'ai partagé l'autre semaine. Moi, j'avais besoin de réaliser que j'avais besoin, parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, Philippiens 4, 19, n'est-ce pas? Et moi, j'avais toujours l'impression que mes besoins, c'est quoi dont j'ai besoin? J'ai besoin de manger juste assez de nourriture pour vivre, de payer mes factures et d'avoir quelque part pour rester. Je veux pas être sans abri, mais j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de payer les factures, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de ça. Et en fait, moi, en premier, parce que j'ai grandi comme ça depuis l'âge de 9 ans, j'avais besoin de, premièrement, honorer Dieu avec la dîme. Ça, c'était toujours depuis l'âge de 9 ans, j'ai toujours fait ça. Donc, pour moi, les besoins, c'est quoi? Je donne la dîme, je paye les factures, j'ai un toit au-dessus de la tête et je mange. Poum, juste assez. Mais un jour, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus. Parce que Dieu dit, il fait les largesses, celui qui donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc là, j'ai vu que Dieu veut donner du pain à manger et il veut aussi donner une semence à semer. Et j'avais besoin de réaliser que j'ai besoin de donner les offrandes. J'ai besoin d'aider les autres. C'est pas juste un désir, c'est un besoin. Et dès que ça devient un besoin, la semence commence à arriver. Si vous voulez changer votre façon de penser que j'ai pas juste besoin de me faire vivre moi-même, j'ai besoin de vivre et j'ai besoin d'aider les autres à vivre aussi. J'ai besoin de ça. Et quand ça change dans votre tête, ça va changer dans votre portefeuille aussi. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Et généreux, la générosité n'est pas calculée par un montant d'argent. Jésus a prouvé cela. La veuve qui a donné deux petites pièces a donné plus que les riches qui ont donné des grosses sommes, mais ils ont donné de leur superflu sans sacrifice. Vous comprenez? Donc là, quand je parle d'être généreux, je suis pas en train de dire que tout le monde ici doit être capable d'avoir des millions et des millions à donner, mais il se peut que quelqu'un ici, c'est le plan de Dieu pour vous. Et si c'est le cas, tant mieux. Parce que les missionnaires et l'Église de Dieu, ils ont besoin, les gens ont besoin de ça. Vous êtes d'accord? Alléluia. Mais la plupart de nous, on ne va pas donner des millions et des millions. On va donner qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire et ça va être quand même généreux. Amen. Donc, tombez pas dans le piège de penser que quand Dieu dit que vous serez riche, il va vous faire en sorte que vous soyez riche. Je veux pas dire, et j'ai jamais dit que Dieu a donné une promesse que chaque enfant de Dieu va devenir un milliardaire. La Bible ne dit pas. Mais la Bible dit que vous serez capable de toujours pourvoir vos besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Amen? Alléluia. Donc. On a vu cela. On a vu la semaine passée le système que Dieu a mis en place pour assurer que notre cœur soit à la bonne place, que nous avons les bonnes priorités. Et on a parlé de l'importance d'honorer Dieu avec la dîme et de semer, de donner des offrandes et donner et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Donc on voit qu'il y a des lois de semer et de récolter. Il y a les lois de donner et de recevoir. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Donc ça, c'est des choses importantes qu'on a vues la semaine passée. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est aussi très important, très spirituel, mais très terre-à-terre aussi. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui pensent que, OK, bon, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de donner, honorer Dieu avec la dîme et donner des offrandes, et puis Dieu va me bénir. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Combien de vous savez que ça ne marche pas comme ça? Comment est-ce que Dieu va vous donner? La Bible dit clairement qu'aujourd'hui, ici sur la terre, ceux qui perçoivent, par exemple, la dîme sont les hommes. Mais au ciel, c'est celui qui est vivant, qui vit pour l'éternité, c'est Jésus. C'est-à-dire que, comment est-ce que si je veux donner à Dieu une offrande, comment est-ce que je dois le faire? Je vais donner à un homme, mais Dieu, il reçoit dans l'esprit, c'est comme un dépôt dans mon compte spirituel. Amen? Je donne à Dieu à travers les hommes. Jésus l'a dit, si tu donnes un verre d'eau froide à quelqu'un qui est dans le besoin, tu l'as fait à qui? À moi. Donc, c'est vrai, si je veux aimer Dieu, je le fais à travers les personnes qui sont sur la terre aussi. Quand j'aime mon épouse, je suis en train d'aimer Jésus. Amen. Quand je donne à mon épouse, quand je fais un geste d'amour à quelqu'un dans mon entourage, je le fais à Jésus. Mais laisse-moi vous dire une chose. Comment... Si moi je donne à Dieu à travers les hommes, comment est-ce que Dieu va me donner? À travers les hommes. Hein? Si Dieu ne va pas faire descendre du ciel l'argent, vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de l'argent tomber du ciel? Vous donnez une offrande et puis le lendemain, il y a de l'argent qui tombe du ciel. Ça marche pas comme ça. Parce que Dieu ne va pas faire... Ça, je fais de la contrefaçon. Comment est-ce qu'on appelle ça? Counterfeit money. Ça serait la fausse monnaie, hein? Dieu n'est pas comme ça. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si vous allez prospérer, oui, il faut avoir la bonne attitude. Oui, il faut avoir les bonnes priorités. Mais oui, aussi, il faut savoir que Dieu veut vous bénir à travers les hommes ici sur la terre. Et que les finances et la prospérité que Dieu va vous donner, ça va venir à travers les hommes, la plupart des fois. Bien entendu, dans les cas spéciaux, Dieu peut envoyer un oiseau. Il a déjà nourri les prophètes par les oiseaux. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, on voit cela. Donc, des fois, quand l'argent ne marche plus, on a besoin d'autre chose. Donc, si nécessaire, Dieu va prendre soin de ses enfants. Livraison spéciale, c'est même pas le petit auto avec Saint-Hubert, mais c'est l'oiseau lui-même qui arrive avec la bouffe. Si c'est nécessaire, Dieu va le faire. Mais combien de vous êtes d'accord que 9 fois sur 10 ou 99% des fois, Dieu ne va pas être obligé d'envoyer les oiseaux avec notre bouffe? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner le pouvoir de quoi? C'est ça le mot? De travailler. Tout le monde dit travailler. Comment prospérer dans votre travail? Savez-vous que le travail, c'est pas une mauvaise affaire. C'est une bonne chose. Et là, pasteur, franchement, est-ce qu'on est obligé de subir un message sur comment prospérer? Je viens de passer 6 jours au travail. Je travaille après-midi. Je voulais au moins avoir un break du travail à l'église. Je ne peux pas parler de ça. Mais laisse-moi vous dire, si vous écoutez avec une bonne attitude, vous allez avoir plus de fun au travail cet après-midi ou demain quand vous travaillez. Amen? Ça va vous aider. Et ça va vous aider à prospérer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prospérer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toujours avoir de quoi satisfaire ses besoins avec un superflu? Donc, Dieu veut qu'on prospère au travail. Donc, il y a des bienfaits. Premièrement, je pense que juste pour commencer, on va faire un petit survol vite. On va voir plusieurs choses que Dieu dit dans la Bible à propos du travail. Juste pour qu'on puisse avoir la bonne attitude. Parce que si vous pensez que travailler, c'est négatif, si vous pensez que le travail, parce que il y a des personnes qui disent comme écoute, c'était après la chute de l'homme que Dieu a dit que l'homme va travailler de la sueur de son front, donc ça fait partie de la malédiction. Et la Bible dit que nous sommes rachetés de la malédiction, donc j'ai plus besoin de travailler. Est-ce que je peux vous dire une chose? La Bible dit que vous êtes rachetés de la malédiction de la loi, mais pas la malédiction de la chute. Et quand l'homme a chuté, quand l'homme a péché, il y avait certaines malédictions. Dieu a maudit la terre, Dieu a augmenté la douleur de l'enfantement, etc. Donc, c'est pourquoi il y a des personnes qui disent, mais moi, j'ai plus besoin d'avoir mal jamais, lors d'un accouchement et quoi que ce soit. Non, il y a certaines choses que c'est le résultat de la chute. Et non, on n'a pas été racheté de la malédiction de la chute, mais la malédiction de la loi. Vous êtes là? Donc, mais même là, savez-vous qu'en Genèse, nous voyons que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a demandé à l'homme de cultiver le jardin, et ça, c'est en forme de travail, n'est-ce pas? Et ça, c'était avant le péché, avant la chute, avant la malédiction. Donc, le travail n'est pas négatif. Le travail, c'est une bonne chose, et je crois, je suis convaincu que nous allons travailler pour l'éternité. Oh! Pasteur, tu viens vraiment de me décourager, là. J'ai pas dit que tu vas travailler comme tu travailles aujourd'hui pour l'éternité. Mais nous aurons toujours un travail à faire, même au ciel. Et qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que, comme Adam et Ève étaient supposés de cultiver le jardin et de travailler dans le jardin, ce n'était pas supposé d'être pénible. Allô? Aujourd'hui, le travail est accompagné par la malédiction. Donc, on va avoir la sueur, on va transpirer, on va avoir besoin de faire des choses des fois désagréables au travail, mais quand même, la base, le concept du travail, c'est pas un concept négatif, c'est de Dieu. Amen? Bon, et voici qu'est-ce que la Bible dit. Plusieurs choses. En fait, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 choses que Dieu dit à propos du travail. On va changer notre attitude. Regardons. Premièrement, le travail est une source de joie. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, n'est-ce pas? On va le dire ensemble. Le travail est une source de joie. Mais toi, tu ne travailles pas à la même place que moi. Je dis, écoute, Psaume 128, 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux. Ça serait peut-être un bon verset à déclarer à tous les lundis matin, n'est-ce pas? Seigneur, merci que je jouis du travail de mes mains, je suis heureux et je prospère. Amen? Mais Dieu veut que le travail soit une source de joie. Et on sait que souvent les personnes qui sont pas capables de travailler, et c'est difficile. Et je suis convaincu, et je sais, et je vais être sensible aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes que des fois, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne peuvent pas vraiment travailler d'une façon traditionnelle. Donc, mais laisse-moi vous dire que quand même, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Même si on ne peut pas travailler dans le marché comme autrefois, on peut toujours travailler. Mais regardons. Le travail procure l'abondance. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir l'abondance? D'où vient cette abondance? Oui, on donne les offrandes. Oui, on donne les dîmes. Mais tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pourquoi quelqu'un qui dit, mais moi, je vais juste donner une offrande et Dieu va me bénir, mais je ne veux pas travailler. Oh, Dieu va me bénir. Les paroles dans l'air mènent à la disette. Combien de fois est-ce que vous avez entendu les personnes parler de, oh, tu sais, un jour, je vais partir une commerce, ou un jour, je vais faire ceci. Un jour, je vais voir. Un jour. Et après 40 ans, de dire, un jour, ou 50 ans, ou 60 ans, il meurt et un jour n'est jamais venu. Et ils ont toujours vécu dans la difficulté. Pourquoi? Parce que des fois, les personnes ne veulent pas travailler. Est-ce que vous êtes là? Je ne parle pas de vous, je parle de quelqu'un d'autre. Pour vrai. Mais quand moi je l'ai dit, qu'est-ce que la Bible dit? Le travail précède la récolte. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est normal, n'est-ce pas? Imagine un fermier qui a, c'est la saison de récolte, il va dans le champ et il n'y a rien qui pousse. Absolument rien. C'est le temps, tous les autres fermiers sont en train de récolter le blé d'Inde et toutes les choses, mais lui, il n'a rien, juste de la boue. C'est quoi? Je ne comprends pas, Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas béni? Mais si le fermier n'a pas planté la semence, quand c'était la saison de planter, si la semence n'est pas dans la terre, il n'y a rien à pousser, vous êtes d'accord? Et combien de personnes, on n'a rien dans la terre, on n'a rien fait, et on s'attend à ce que Dieu nous bénisse, et ça ne marche pas comme ça. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Une autre chose, le travail nous donne le droit de manger. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, est-ce que vous voyez, ça c'est il y a une éthique du travail que les chrétiens, les enfants de Dieu ont besoin de maintenir et de cultiver. Amen? Tout le monde dit, c'est bon de travailler. Alléluia. Donc, on voit, Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas partager notre pain avec les autres? Non, 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 c'est pas ça. Mais vous voyez, il y a une différence entre recevoir de l'aide à l'occasion. Que... Moi, je sais c'est quoi. On a passé par des moments serrés où on avait besoin d'avoir de l'aide et on a mangé le pain que quelqu'un nous a offert. Amen. Il y a ben d'autres fois que nous, c'est nous qui avons offert le pain à ceux qui étaient dans le besoin. C'est pas ça, mais ce verset dit tout simplement que si quelqu'un veut être paresseux, une personne refuse de travailler, mais il veut toujours mendier, demander et faire en sorte que les autres se sentent culpabilisés parce que, mais j'ai rien, donne-moi. Mais si la personne ne veut même pas travailler, c'est plus de notre responsabilité. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. On lit la Bible ce matin. La Bible est pratique, n'est-ce pas? Le travail nous donne la capacité de donner. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc on voit, c'est bon d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres. On a besoin de partager avec eux et de se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Combien de vous, vous avez découvert que c'est vrai? C'est le fun de donner, n'est-ce pas? C'est bon. Mais, attention, soyez pas trop orgueilleux pour recevoir non plus. Ça, c'est une chose, on avait besoin de travailler ça. Parce que des fois, c'est comme moi, j'aime donner. J'aime aider les autres. Mais quand c'est le temps pour quelqu'un qui veut nous donner de quoi, des fois, c'est l'orgueil aussi. Vous êtes d'accord? Mais si vous n'êtes pas un bon receveur, vous ne serez jamais un bon donneur. Amen. Quelqu'un veut vous donner quelque chose, vous dites, non, absolument, moi je travaille pour tout, je ne reçois jamais rien gratuit, jamais. Mais écoute, vous venez de voler la bénédiction de l'autre personne. Parce qu'il y a plus de joie et bonheur à donner qu'à recevoir. Et si la personne veut avoir le bonheur de donner, vous dites non, vous venez de lui voler sa bénédiction. Allô? Donc, on a besoin d'apprendre comment être reconnaissant, dire merci, je suis reconnaissant, merci. Et puis, de savoir que oui, maintenant j'ai reçu gratuitement, c'est à mon tour de donner gratuitement. Allô? Alléluia. Le travail donne à Dieu de quoi bénir aussi. Pourquoi est-ce qu'on travaille? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de... Qu'est-ce que Dieu bénit? Donc, si tu ne travailles pas avec tes mains, Dieu n'a rien à bénir. Vous êtes d'accord? Mais attention, je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui ne peut pas ou quelqu'un qui est dans l'impossibilité de travailler, mais quelqu'un qui décide de ne rien faire, Dieu n'a rien à bénir. Mais si nous travaillons de nos mains, de la bonne façon, avec la bonne attitude, Dieu va avoir de quoi bénir. Et tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prendras point. Ça, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Le travail donne une occasion de toucher les non-croyants aussi. Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait aimer le travail? Parce que ça nous donne aussi une occasion de toucher ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc on voit l'importance de travailler. Ça donne un bon témoignage. Quelqu'un qui travaille et qui travaille bien est un bon témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Et puis, finalement, huitième chose, le travail contribue à la prospérité de la société. Pourquoi est-ce que je dois travailler? Pourquoi est-ce que nous, le corps de Christ, nous devrions travailler? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela? Parce que le travail contribue à la prospérité de notre société. Vous savez que même l'économie va mieux quand on a des bonnes personnes qui travaillent. Vous êtes d'accord? Et je crois que l'économie à Drummondville a besoin des travailleurs honnêtes, des travailleurs fidèles, des personnes qui vont travailler fort pour la gloire de Dieu. Et ça va faire fonctionner l'économie. Et je crois que votre shop, votre usine, votre bureau, la place où vous travaillez va être béni parce que vous travaillez là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Laban lui dit, puisse-t-il je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ici, c'est Laban, qui était le beau-père de Jacob, qui était un homme qui n'était pas honnête, qui a essayé à plusieurs fois de tricher Jacob, qui travaillait pour Laban. Mais Laban a dit ceci, je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Est-ce que vous avez cette révélation que vous êtes enfant de Dieu? Et que vous avez le plus grand à l'intérieur de vous? Et que quand vous allez au travail, que vous amenez Jésus avec vous? Et que quand vous allez travailler, vous allez amener les bénédictions de Dieu avec vous, et que votre commerce, votre patron, tous ceux qui vous entourent, si vous êtes conscient de cette réalité spirituelle, vous allez pouvoir apporter une bénédiction dans votre lieu de travail. Et si votre lieu de travail prospère, devinez-vous quoi? Vous allez prospérer aussi. Donc, on parle que Dieu peut vous faire en sorte que vous soyez riche et que vous ayez toujours de quoi satisfaire tous vos besoins, mais comment? C'est pas juste l'argent qui va tomber du ciel. Dieu va bénir le travail de votre main. Et votre commerce va réussir et votre entreprise va vraiment grandir et être bénie et vous allez en profiter aussi. Amen? C'est ça qu'on veut. On voit cela dans la deuxième page de Bonnot. On va finir aujourd'hui avec cet exemple et juste une exhortation de Éphésiens 6. Mais avant, on va lire quelque chose à propos de Joseph. Parce que je crois que Joseph, c'est un bon exemple de cela. Joseph, c'est quelqu'un qui a prospéré dans son travail. Même si c'était un travail forcé, Joseph n'a pas choisi de travailler là où il travaillait. Il n'avait pas le choix. Il était esclave. Et des fois, vous me dites peut-être ce matin, mais moi, c'est pas là où je veux travailler. J'ai pas vraiment le goût de travailler là où je travaille actuellement, mais écoute, c'est la seule chose qui est disponible. J'ai pas ben le choix. J'aime pas ça. C'est pas vraiment mon choix, mais je suis là. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes obligé à faire quelque chose que vous n'aimez pas forcément faire dans le naturel, mais vous êtes là? Des fois, vous avez l'impression d'être esclave. Amen. Et qu'est-ce que vous faites? Faisons comme Joseph. Joseph a toujours gardé une bonne attitude positive. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Et il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. On va le dire ensemble. L'Éternel fut avec lui. Et regarde la prochaine chose. Et la prospérité l'accompagna. Même dans l'esclavage, même dans la servitude, même dans les situations difficiles, la prospérité a accompagné Joseph. Mais est-ce que ça l'a accompagné juste par hasard ou est-ce qu'il a fait des choses pour faire en sorte que ça arrive? Moi, je crois, c'est parce qu'il avait la bonne attitude, il avait une compréhension de qui il était un enfant d'alliance. Il était en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Il était conscient de cela, que même dans une situation où il est vendu dans l'esclavage, il va prospérer. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce que votre patron au travail voit que l'Éternel est avec vous? Si le Seigneur est dans votre vie, les gens qui vous entourent devraient le voir. Et ça va vous aider, laisse-moi vous dire. Je dis pas que vous devrez arriver au travail avec une Bible et taper tous les collègues sur la tête et commencer à évangéliser. Là, ça va faire le contraire. Mais si vous arrivez avec une bonne attitude et vous travaillez fort et vous êtes un faiseur de paix avec tous ceux dans le shop ou à l'usine, et là, un jour, peut-être, quelqu'un va commencer à poser des questions. Mais comment ça? Tu es différent. Là, tu vas pouvoir dire, c'est Jésus qui est en moi. Ils vont voir que l'Éternel est avec vous. Amen. On parle de la prospérité. Et c'est pas juste abracadabra, on va prendre la baguette magique et boum, vous êtes prospère. Dieu veut bénir le travail de vos mains. Allô? L'Éternel, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Il faisait quoi? C'est qui a fait prospérer entre ses mains? L'Éternel a fait prospérer entre ses oreilles tout ce qu'il a entreprenait. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Non. Il n'avait pas juste l'idée de travailler. Il a prospéré tout ce qui était entre ses mains. Il a mis en action qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Amen. Donc, continuons ici. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et ça, on parle d'un homme riche, full riche, comme les jeunes disent, hein? Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de qui? De l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire. Dieu veut que les enfants de Dieu puissent aller travailler, que les patrons vont voir que l'Éternel est avec eux, même la grâce de Dieu va être avec les chrétiens vont recevoir les promotions, les chrétiens vont pouvoir apporter à leur place de travail la bénédiction, la grâce et la prospérité de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est une bonne chose. Donc, et ça, c'est une chose que vous devrez prier. Vous devrez confesser, merci Seigneur, aujourd'hui en allant au travail, je déclare que cette usine est bénie parce que je suis là aujourd'hui. Vous devrez prier pour la prospérité de votre commerce, amen? Priez que ça va bien, priez qu'ils vont avoir du travail à vous donner aussi. Amen, amen. Donc là-dedans, on a Éphésiens 6, 5 à 8. On a ici trois exhortations du Nouveau Testament. Parce que là, vous dites, mais là, c'est, vous venez de lire une histoire de Joseph, c'est dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais savez-vous que la Bible parle beaucoup du travail et que Dieu veut bénir le travail de nos mains. En Éphésiens, chapitre 6, 5 à 8, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, il nous donne des instructions très, très pratiques et très terre à terre. Il parle aux employés comment faire pour être bénis. Est-ce que ça vous intéresse? De savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu dit. Donc, trois principes aujourd'hui qu'on va faire juste pour terminer. Numéro un, si vous voulez prospérer dans votre travail, travaillez pour le bon patron. Et là, vous dites, c'est sûr, ah, là, c'est ça, je savais, c'était ça le problème. Je travaille pas pour le bon patron, le gars pour qui je travaille, il est méchant, il n'est pas fin, ah, il est sans dessin, yo, baba. Savez-vous quoi? La Bible est claire là-dessus. Il parle, parce qu'à l'époque de la Bible, il y avait beaucoup d'esclaves, littéralement, ils étaient dans l'esclavage, et la Bible a donné les instructions de comment un esclave devrait agir, qu'il devrait agir avec honnêteté et fidélité, etc., pas juste quand le patron ou le maître est bon, mais aussi quand il n'est pas bon. C'est comme, travailler pour le bon patron, qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardons le verset. Employés, obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens des responsabilités dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. Et ça, c'est le truc. Il faut essayer de voir que vous travaillez pas pour Monsieur X ou Y ou Z, mais vous travaillez pour Jésus. Amen. Et des fois, les patrons ne sont pas gentils. Des fois, ils sont pas honnêtes. Moi, je m'en souviens de la première job que j'ai eue quand j'avais 16 ans. Je travaillais, mais en fait, moi, j'ai eu plusieurs expériences. Je travaillais dans un restaurant, mais ça, c'est une autre histoire. Et le gérant m'a menti. Régulièrement, il a dit, bon, voici les heures que tu vas avoir, mais tu vas finir à telle heure, mais non, c'était jamais ça, c'était jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc, des fois, avez-vous vu que des fois, on peut avoir des patrons malhonnêtes? Mais le premier job que j'avais, j'ai travaillé dans une équipe, dans un parc d'attractions, d'amusement, comme la Ronde, au Missouri, le site drapeau, on appelle ça. C'était énorme, des milliers de personnes qui... Et ma job, c'était de faire le ménage. C'est moi qui ramassais toute la cochonnerie dans le parc. C'est moi qui nettoyais les toilettes publiques. Et laisse-moi vous dire, les toilettes publiques dans une place où il y a des milliers de personnes dans un parc d'attractions. Et aussi, il y avait des ménages là-bas, hein, les manèges qui brassaient pas mal. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vient de manger 3 hot dogs et tout, et il sort de manège et bouh! Et qui est-ce qu'ils appellent? Nous avons à telle place, bon, j'arrive. Hein? Heureusement, on avait un produit spécial comme un brin de scie qu'on met là-dessus et on nettoie ça. Et, donc, moi, je sais c'est quoi, hein, travailler. Et là, il faisait souvent 35-40 degrés avec 80% d'humidité. Les journées comme ça, et j'ai trempé de sueur, trempé, c'est chaud, c'est misérable, mais j'étais content de travailler. J'ai un job. J'ai même pas le... Parce que eux autres, ils payaient même pas, je pense, c'est 20 cents en bas du salaire minimum. C'était 20 cents en bas parce que c'était juste souvent les ados qui travaillaient dans l'été et tout. Et donc, à l'époque, je m'en souviens, c'était 3 et 30 cents que je gagnais de l'heure. Mais on travaillait comme des fous. Mais j'étais content d'avoir un job. Mais un jour, mon patron arrive, il dit, j'ai besoin d'un volontaire, quelqu'un. Alors, n'oublie pas, il fait 35, 40 degrés, 80% d'humidité. Et il est chaud. Et on est sur l'asphalte la journée longue. C'est quelque chose. Et il dit, mais j'ai besoin d'un volontaire pour aller travailler dans le dépôt de glace, parce qu'il y avait une place réfrigérée, un congélateur énorme où ils avaient toute la glace pour toutes les personnes qui dans les restaurants et tout. Donc j'ai besoin d'un volontaire. Je dis, moi j'irai. Tout le monde voulait aller. Donc il m'a choisi. Et donc j'embarque. Il avait un petit on a dans les terrains de golf, une petite voiturette. Donc je vais t'amener là-bas. Donc, on y va. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on ne va pas dans le bon sens. Donc là, on arrive et puis l'odeur m'a rencontré et dit, aujourd'hui, tu vas travailler. Je ne m'en souviens plus le nom de la place, mais c'était une petite place où il y avait des cochons et des chèvres. Qu'il fallait les nourrir et ramasser le crotte de cochon et il fait 80% d'humidité, 35. Et là, je pensais que je vais aller travailler où ça va faire froid et je vais enfin arrêter de transpirer, mais c'est là, toute la journée. On ramasse les choses et il faisait chaud. Donc, des fois, je sais c'est quoi d'avoir les patrons qui sont malhonnêtes. Il m'a triché. Mais il fallait travailler quand même, n'est-ce pas? Donc, vous avez tous plein d'histoires pires que ça, n'est-ce pas? On va pas donner le micro, ça n'aura pas de fin. Mais heureusement, c'est pas tous les patrons qui mentent, vous êtes d'accord? Mais peu importe, ici, la clé, c'est qu'on travaille pour le Seigneur. Et quand on a une bonne attitude, même si le patron n'a pas une bonne attitude, quand on est honnête, même quand il est malhonnête, le Seigneur va nous bénir. Et c'est lui qui va nous récompenser. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous donner la sagesse de comment dealer avec cela. Numéro 2, travailler avec la bonne motivation aussi. Pourquoi est-ce que vous allez travailler? N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe pour faire bonne impression. Hein? Hey, le patron arrive. Tout le monde travaille. Le patron est parti. Hein, c'est comme... Non, je ne devrais pas raconter ça. Non, parce que ce n'est pas vrai, mais c'est quand même drôle. Mais c'est comme les garçons qui, qui parlaient de leur père. Mais mon père est plus fort, il est capable de lever 500 livres, et mon père, il est ceci et ça. Donc, il y avait une gang de gens qui vantaient de leur père et leur capacité. Et ouais, mais mon père est capable de courir quelques kilomètres en temps de seconde, et tout dedans. Et finalement, un petit garçon dit, mais ça, c'est rien de tout. Rien de tout. Mon père, il est fonctionnaire. Et lui, il termine le travail à 5 heures. Il arrive à la maison à 5 heures moins quart. Non. Non. Ça, c'est pas vrai. Il y a des fonctionnaires ici qui sûrement vont faire les heures supplémentaires. Mais c'était quand même drôle, n'est-ce pas? Et ils font rire ce matin. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe pour faire une bonne impression. Il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur de Christ. C'est la volonté de Dieu qui vous importe de connaître et d'accomplir. Pourquoi est-ce que vous allez au travail? Parce que j'ai besoin d'acheter la bouffe cette semaine. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça, c'est la seule raison que vous allez travailler? Où est-ce que vous allez parce que Dieu vous a donné une mission à accomplir? Et qu'il y a des personnes à votre travail qui ont besoin de voir un enfant de Dieu et comment il agit en face d'un patron qui n'est pas gentil et comment il va réagir et ça va provoquer des questions et ça va faire en sorte que la personne va venir à Jésus. Est-ce que vous allez au travail pas juste pour satisfaire à vos besoins, vos désirs, ou est-ce que vous faites comme Éphésiens 4, 28 dit, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regarde cela. En faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir quoi? De quoi donner. On va le dire ensemble, pour avoir de quoi donner. Encore une fois, pour avoir de quoi donner. Quand on va au travail, oui, on a besoin de donner des choses à nos enfants. On a besoin de donner des choses à nos épouses. On a besoin de pourvoir à nos besoins de notre foyer, notre maison. Mais aussi, on peut aller travailler avec ce désir. Je ne vais pas juste aller travailler pour mon pain, mais je vais aller travailler pour ma semence. Et si vous avez cette attitude, est-ce que vous voyez comment Dieu peut intervenir et bénir et faire en sorte que vous ayez des promotions et augmentations de salaire parce que vous travaillez avec la bonne motivation? Et je n'ai pas dit que ça va arriver du jour au lendemain, mais ça va arriver si vous êtes fidèle. Amen? Et gloire à Dieu, je crois de tout mon cœur que Dieu veut dans ces derniers jours, il veut susciter encore de chrétiens qui savent travailler avec la bonne motivation et qui vont être prospères à tous égards comme prospère l'état de leur âme. Amen. Numéro 3, travailler avec les bonnes attitudes. En servant des hommes, faites-le de... Quoi? Plus fort. C'est marqué ici, en servant des hommes. En servant des hommes. N'oubliez pas que Dieu parle ici aux employés, mais il parle même aux esclaves. En travaillant pour les hommes, faites-le de bon cœur, mettez-y toute votre âme et votre affection, comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Alors, il sera pour vous une source de... C'est quoi qui sera pour vous une source de joie? Votre travail. Aussi, votre travail pour le Seigneur. Quand vous travaillez pour les hommes, mais dans le fond, vous, dans votre cœur, vous savez que vous le faites pour le Seigneur, comme à lui, ça va être une grande source de joie. Amen. Alléluia. Donc, travaillez pour le bon patron, Jésus. Travaillez avec la bonne motivation. Oui, je veux être une lumière, je veux être le sel de la terre, mais je vais aussi travailler pas juste pour mon pain, mais pour ma semence. Travailler avec les bonnes attitudes. Et quelles sont les bonnes attitudes? Il y en a trois qu'on va juste mentionner. Première chose, c'est la loyauté. Est-ce que vous savez c'est quoi la loyauté? C'est sûr que Joseph avait, on parle de Joseph. Joseph qui était dans la maison de Potiphar. Potiphar a vu que la main de Dieu était avec lui, la faveur de Dieu était sur lui. Il a eu une promotion après la promotion et tout d'un coup, tout ce qui appartenait à Potiphar était remis entre les mains de Joseph. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, de toute évidence, il était beau, il était bien musclé, attirant, et la femme de Potiphar avait le désir d'être avec lui. Et cette femme a commencé à faire les avances et puis elle essaie de séduire Joseph. Et même un jour, elle est allée, elle a osé prendre Joseph et prendre ses vêtements et dit, bon, maintenant, viens, couche avec moi. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il a toujours répondu, écoute, mon maître, ton mari, il me fait confiance, je paraphrase. Et tout ce qu'il a, il a remis entre mes mains. La seule chose qu'il ne m'a pas donnée, c'est toi. Comment est-ce que je pourrais le tromper? Comment est-ce que je pourrais le tricher? Comment est-ce que je pourrais faire un geste si égoïste que ça? Donc, vous voyez la loyauté. Il était loyal envers Dieu, mais aussi envers son patron aussi, n'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est un concept qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui. Et malheureusement, autrefois, on voyait les compagnies qui étaient loyales envers les employés. Autrefois, on voyait les compagnies qui gardaient les personnes 20, 30, 40 ans, et puis après ça, la retraite. Et on ne voit pas beaucoup de ça aujourd'hui, vous êtes d'accord? Moi, j'aimerais voir les enfants de Dieu fonder et partir les commerces avec ces principes encore, où ils pourraient traiter les employés avec ce genre de loyauté aussi. Mais au moins, si je peux pas contrôler qu'est-ce que l'autre personne fait, je peux contrôler mes propres actions et je peux prendre une décision d'être loyal. Amen. Et au travail, vous pouvez prendre une décision d'être loyal aussi. Loyauté, deuxième chose, c'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est d'être constant. C'est de remplir bien ses tâches. D'être fidèle dans les petites choses. D'être fidèle dans les richesses injustes. D'être fidèle dans ce qui est à autrui. La fidélité est une clé pour la prospérité. Regardons qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Un homme fidèle est quoi? Comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il y a quelque chose, la Bible parle beaucoup du principe de travailler et de travailler avec fidélité, de ne pas avoir trop hâte de s'enrichir. Laisse-moi vous dire, quelqu'un qui vous promet que vous allez être millionnaire dans quelques semaines, si vous faites ceci, vous faites cela, moi je connais des personnes qui ont même fait beaucoup d'argent pour une saison, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont fini pire qu'ils ont commencé. Il y a quelque chose dans la parole, on voit qu'on travaille et on bâtit tranquillement, pas vite. Il y a un pasteur qui m'a dit une fois, un pasteur d'une église de 6000 membres à Tennessee, à Nashville. Je l'ai cherché à l'aéroport une fois, j'avais juste 20, 21 ans et je voulais apprendre des choses. Comment il a pu bâtir une église de 6000 membres? Il était pasteur depuis 45 ans dans la même église. Et je lui demandais, je lui dis, comment est-ce que tu fais? Explique-moi, dis-moi, je veux entendre l'histoire. Il a dit, mais moi, mon épouse et un autre couple, on est allés prêcher à Nashville, dans les rues, et on avait 30 personnes qui sont venues assister à une réunion, et 13 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et on a commencé avec ces 13 personnes, et on a commencé à bâtir. Et puis il a dit, ça allait vraiment lentement, c'était pas trop vite pour les premiers, et moi j'étais sûr qu'il allait dire 6 mois ou un an. C'était lent pour les premiers, et puis il a dit, c'était vraiment lent pour les premiers 12 ans. Et puis il m'a regardé, il a dit, juste oublie jamais une chose, jeune homme. Il a dit, les champignons poussent vite, mais les chênes poussent lentement. J'ai jamais oublié ça. Quand quelqu'un qui a de la maturité dans le Seigneur te regarde et n'oublie jamais, jeune homme, le jeune homme n'oublie jamais. Si le jeune homme est sage. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est que attendez-vous pas que votre prospérité va exploser, que tout d'un coup, dans une semaine ou un an même, que toute votre vie va être merveilleuse. Ça prend du temps et des fois, dans la vie, on peut avoir l'impression de prendre quelques pas en reculant. Mais si on continue et si on est constant, la clé, c'est la fidélité. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Puis, diligence. Celui qui agit d'une main large s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Les quoi des diligents? La main des dirigeants.
enrichir.
Donc, gloire à Dieu. Travaillez pour le bon patron. Travaillez avec la bonne motivation. Et travaillez avec les bonnes attitudes. Trois choses qu'on peut faire pour réussir et prospérer dans notre travail. Et peu importe c'est quoi. Laisse-moi vous dire qu'il y a des personnes ici qui ne peuvent pas travailler dans le marché aujourd'hui à cause des fois de votre santé, votre âge, votre situation familiale. Il y a des personnes qui ne sont pas capables. Mais laisse-moi vous dire, on a tous un travail à faire dans le Seigneur. Vous êtes d'accord? Pour la maman qui est à la maison avec les enfants, laisse-moi vous dire, quelqu'un me dit que, oh, mais est-ce que tu travailles? Est-ce que vous êtes d'accord que les mères qui sont à la maison avec les enfants travaillent? Ils aimeraient bien aller à l'usine pour avoir une vacance. Mais que ça soit un travail à la maison, que ça soit un travail dans une usine, dans un bureau, que ça soit un travail comme pasteur, ou quoi que ce soit. Et je sais que les gens disent, oh, mais moi, j'aimerais ça être pasteur, on travaille juste deux fois par semaine, deux heures par semaine. Dimanche et mercredi soir. Ça, c'est une autre histoire. J'embarque même pas. Mais, vous savez, peu importe que ça soit à la maison, dans l'usine, au bureau, peu importe, si nous avons cette optique, cette attitude, si nous savons que le travail, c'est une bonne chose, et que Dieu veut bénir le travail de notre main, et on travaille pour le bon patron, avec la bonne motivation, avec la bonne attitude, nous allons, au fur et à mesure, prospérer. Et Dieu va faire en sorte que nous ayons toujours de quoi satisfaire tous nos besoins, avec un superflu en œuvre. Juste pour terminer, Éphésiens 6, 8, vous savez bien que c'est du Seigneur que tout homme recevra la, quoi? Récompense de ses bonnes actions. Qu'il soit esclave ou libre, ainsi tout ce que vous aurez fait de bien, vous le retrouverez où? Auprès du Seigneur. C'est-à-dire que même si votre patron ne vous récompense pas, même si la société ne vous récompense pas de la bonne façon, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, la Bible dit. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour tous les saints. Et c'est lui qui va vous récompenser. Donc, merci Père Céleste. On va se lever debout. Je ne sais pas si quelqu'un peut chercher Daniel pour le piano. Moi, j'aime ça, savoir que Dieu est, et sa parole est pratique. Savoir que Dieu s'intéresse à votre vie au travail. Que Dieu n'est pas un Dieu du dimanche matin ou mercredi soir, mais Dieu est un Dieu de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Il s'intéresse à votre vie du travail, il s'intéresse à votre vie familiale, il s'intéresse à, même à vos journées de congé. Il s'intéresse à tous les détails de votre existence ici sur la terre. Et nous avons, dans la parole de Dieu, les instructions qui sont destinées à nous aider à réussir. Au nom de Jésus. Donc, juste avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais faire comme on fait à tous les dimanches matins. Dieu veut que vous soyez prospères. Mais, comme on a dit, la prospérité égale la paix. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est le prince de la paix. Donc, en réalité, si vous n'avez pas le prince de la paix, vous ne pouvez pas vivre ou expérimenter la prospérité de Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais donner cette occasion, je fais cela à tous les dimanches matins. Et c'est un engagement que j'ai fait devant le Seigneur. Et je vous demande de vous poser la question. Aujourd'hui, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez reçu dans votre cœur, personnellement, le prince de la paix, Jésus-Christ? Est-ce que tu crois dans tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang à la croix, qu'il était enterré le troisième jour ressuscité? Parce que la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est un maître, un patron. Amen. On a parlé de travailler pour le bon patron. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton patron, ton maître, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. C'est un don gratuit que tu ne peux pas mériter. Mais Jésus a dit une autre chose. Il a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, la question que je te pose et l'invitation que je te lance, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt à confesser devant les autres même que oui, aujourd'hui, je déclare, je n'ai pas honte de Jésus, qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus. C'est mon maître, c'est mon patron. Je lui donne ma vie, mon cœur, et je l'invite à entrer dans mon cœur, d'effacer mes péchés et de faire de moi une nouvelle personne, lavée, purifiée. Je vais commencer une nouvelle vie avec Jésus aujourd'hui. Je veux vivre pour lui, parce qu'il est mort pour moi, il vit pour moi. Je vais vivre pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Et pose-toi la question. Si tu quittes la salle aujourd'hui, et ton cœur arrête de battre comme ça, est-ce que tu as l'assurance à 100% que tu vas aller passer l'éternité au ciel? Sinon, aujourd'hui, c'est la journée que tu peux quitter cette salle en sachant, sans aucune doute, que ta vie, ton cœur est en règle avec Dieu et que tu es une nouvelle création en lui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut confesser que Jésus va être son patron? Tu veux donner ta vie à lui? Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Il y a un monsieur ici. Il y a une femme ici. Donc, merveilleux. Est-ce que vous pouvez juste venir ici? On va prier. Une autre femme ici. Venez, on va prier ensemble. Merveilleux. Ça, c'est merveilleux. C'est la première fois. Merveilleux. C'est merveilleux. Donc, c'est la première fois aussi. Donc, là encore, ton nom, c'est Mélissa et ton nom, c'est Jeanne. Yvette, Jeannette et Claude. Mélissa, Yvette et Claude. Ces trois personnes veulent donner leur vie à Jésus. Changez de patron, si vous voulez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et sache, on va faire une prière ensemble. Et cette prière, si vous le faites de tout votre cœur avec sincérité, le Seigneur va l'entendre et ce Seigneur va faire en sorte que votre cœur soit changé. C'est ça. Et le Saint-Esprit va entrer dans votre cœur. Vos péchés vont être effacés, lavés, purifiés. C'est comme si vous commencez à zéro, une nouvelle vie en Jésus. Donc, est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble, tout le monde dans la salle, mais répétez cette prière du fond de votre cœur. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Mon patron, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Merci. Mes péchés sont pardonnés, effacés. Je suis lavé et purifié. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Et tu es mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, Claude.